Il y a une dizaine d'années, je rentrais d'un mariage. Il était à peu près 2h du matin. J'étais à Antibes, une ville du sud de la France que je ne connaissais pas. Pas du tout. Je devais aller dormir chez quelqu'un chez qui j'avais déposé mes affaires un petit peu plus tôt dans la journée. Je n'avais que leur adresse et mon GPS. Vous savez, il y a un peu plus de 10 ans de cela, c'était ces premiers boîtiers type TomTom. Mais là, je parle peut-être à une génération que les moins de 20 ans. Et alors que j'étais à mi-chemin, à peu près à mi-chemin, le GPS a perdu le signal. Écran noir, message d'erreur, plus de cartes, plus de petites flèches. Cette voix si rassurante qui me guidait s'est tue. Ce petit boîtier qui avait toute ma confiance venait de me lâcher. La suite de ma nuit devenait soudainement très incertaine. J'étais seul face à des centaines d'itinéraires possibles devant moi, sans savoir quel chemin suivre. Vous imaginez un petit peu l'état dans lequel je me suis retrouvé. Ce mélange de confusion, d'inquiétude, presque même de panique. J'étais sans repère. Est-ce que vous avez déjà ressenti cela dans votre vie? Il y a un peu plus de 2000 ans, c'est un peu ce qu'ont ressenti une bande de gars, des disciples de Jésus. Vous savez, ces hommes qu'il avait suivis pendant près de 3 ans. Mais ils ont vécu cela de manière bien plus importante. C'était aussi lors d'une nuit, la veille du jour où Jésus, leur maître, allait mourir sur une croix. Ils sont là ensemble autour d'une table, avec lui, et quelques heures plus tôt, Jésus venait de leur annoncer plusieurs choses troublantes. Pierre, l'apôtre Pierre, qui deviendra par la suite l'apôtre Pierre, un des disciples, allait renier Jésus 3 fois avant le lever du soleil. Pire encore, Judas, un autre disciple, allait trahir Jésus. Et enfin, Jésus leur a aussi annoncé que le moment était venu de les quitter et que les disciples ne pourraient pas aller. Ils ne pourraient pas suivre Jésus là où il irait. Le GPS intérieur des disciples venait de s'éteindre. Tout ce sur quoi ils s'appuyaient vacille. Et c'est précisément ce moment-là, dans ce trouble profond, que Jésus va prendre la parole. Et ce matin, j'aimerais que nous entendions ensemble ce qu'il dit à ces hommes troublés. Et ce qu'il dit aussi à nous, aujourd'hui, si peut-être nous nous sentons désorientés face à un avenir incertain, ne sachant pas forcément quel chemin suivre. J'ai donné pour titre à ce temps de partage ce matin « Le réconfort de Jésus pour des cœurs troublés ». Je vous invite à lire dans l'évangile de Jean. Henri nous a parlé de Jean, le disciple, qui nous rapporte donc ces paroles de Jésus. Dans le chapitre 14, et on va juste lire les 6 premiers versets. Voici ce que Jésus dit. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas,
Un autre disciple lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père, donc on ne vient à Dieu, qu'en passant par moi. » Je m'arrête ici pour la lecture de la Bible. Regardons ces premières paroles réconfortantes de Jésus. « Que votre cœur ne se trouble pas. » Le mot que Jésus utilise ici est fort. Il s'agit pas d'une petite inquiétude passagère. Il s'agit en fait d'une agitation profonde intérieure, une vraie tempête, un vrai bouleversement. En fait, Jésus a employé ce même mot pour décrire ce qu'il a ressenti quelque temps plus tôt devant le tombeau de son ami Lazare, décédé depuis 4 jours. Il connaît ce trouble. Et nous, aujourd'hui, qu'en est-il de nous ? Nous sommes peut-être la génération la mieux équipée de l'histoire pour nous orienter. Smartphone, application, information en temps réel. Et pourtant, nous sentons tous un jour ou l'autre, nous nous sentons tous désorientés face à de grandes questions existentielles. Et Henri nous en a déjà touché 2 mots ce matin. Quel est le sens de ma vie ? Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre ? Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Je crois que ce trouble profond a au fond un lien avec Dieu, qu'on le reconnaisse ou non. En fait, Dieu nous dit dans la Bible, dans sa parole, que nous avons été créés par lui et pour lui. Dans le jardin d'Éden, la relation entre Dieu et ses premières créatures était parfaitement harmonieuse. Mais quand Adam et Ève se sont détournés de Dieu, en voulant finalement devenir leur propre Dieu, et on a parlé du péché dans les chants ce matin, et c'est une définition du péché, ils ont ressenti une émotion qu'ils n'avaient jamais connu alors, la peur. Ils venaient d'être séparés de celui qui était leur sécurité. Et depuis, chacun de nous cherche à assurer lui-même sa propre sécurité. Je compte sur ma santé, je compte peut-être sur mes finances, je compte sur mes relations, sur ma réputation. En fait, je gère ma propre vie et personne n'a vraiment le droit de me dire ce que je dois faire. Et j'avance ainsi, jour après jour, jusqu'à ce moment, ce jour où mon GPS tombe en rade. Et là où je croyais tout contrôler, je réalise finalement que je ne contrôle presque rien. Je fais face à une trahison, une rupture, un abandon, un deuil, un diagnostic médical dramatique. Et soudainement, tout ce qui faisait ma sécurité me lâche, comme mon GPS cette nuit-là. Mais Jésus leur dit pas juste que votre cœur ne se trouble pas. Il va préciser le remède à un cœur troublé. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Remarquons ensemble ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas, oh les gars, arrêtez d'être troublés. C'est ridicule. C'est pas grand chose. Il ne leur dit pas non plus, courage. Ce n'est qu'un mauvais moment. Ça va passer. Ou, vous avez au fond de vous toutes les ressources pour continuer d'avancer. Non, Jésus leur dit, faites-moi confiance. Parce que face au trouble, nous avons besoin de quelqu'un de plus grand et de plus fort que nous. Quelqu'un en qui nous pouvons avoir une confiance absolue. Un enfant effrayé a besoin des bras réconfortants de ses parents. Un gardien de phare, lui, ne craint pas grand-chose des vagues qui viennent s'écraser contre son édifice. Et c'est exactement ce qu'affirme Jésus ici. En fait, Jésus se place sur le même plan que Dieu. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Un simple être humain ne mérite pas une telle confiance. Parce qu'un jour ou l'autre, il risque de nous décevoir. Mais un homme qui est aussi Dieu, nous pouvons lui faire confiance sans réserve. Une histoire raconte, je sais, il y a peut-être une part de vrai, une part de légende, mais une histoire raconte qu'un funambule a traversé à de multiples reprises les chutes du Niagara sur un fil, et ce de différentes façons. Les yeux bandés, bon, les yeux ouverts déjà, les yeux bandés, et puis aussi en poussant une brouette. Et un jour, il s'est présenté devant ce fil, et il y avait bien sûr une foule pas possible qui était là pour assister à ses multiples exploits. Et il s'adresse à la foule et il dit « Est-ce que vous croyez que je peux traverser en portant quelqu'un dans ma brouette ?» Toute la foule « Ouais, on le croit, tu peux le faire !» Il a souri et il a dit « Très bien, qui est-ce qui monte dans la brouette ?» Et là, silence de mort. La véritable foi, c'est monter dans la brouette. Et c'est exactement ce que Jésus nous invite à faire. Alors vous direz, d'accord, face aux troubles, face aux incertitudes de la vie, Jésus nous invite à lui faire confiance. Mais pourquoi est-ce que je peux faire confiance à Jésus? Et ça va être la suite de ce qu'on a lu, parce que Jésus nous garantit un avenir. Une grande peur des disciples et une de nos grandes peurs, si on est honnête avec nous-mêmes, concerne l'avenir. Nous sommes troublés parce que nous sentons bien que nous ne contrôlons pas grand-chose de ce qui concerne le futur. Il y a un humoriste actuel qui pose cette question et dit... On se pose souvent la question de quelle planète est-ce qu'on va laisser à nos enfants. Et lui, il dit en parlant de ses propres enfants, « Moi, je me pose la question de quels enfants je vais laisser à ma planète. » Oui, Jésus va quitter ses disciples. Mais il dévoile alors le projet qu'il y a derrière son départ. Je recite ce que Jésus a dit. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. » Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Devant ces paroles, j'aimerais souligner deux choses qui transparaissent. D'abord, une notion de priorité. Est-ce que vous avez vu qu'est-ce qui compte le plus pour Jésus? Ce qui compte avant tout pour lui, c'est que nous retrouvions cette relation avec Dieu. S'il leur demande de lui faire confiance, c'est justement parce que le départ de Jésus va tourner à leur avantage. C'est son départ qui va leur ouvrir l'accès à la présence même du Père, de Dieu son Père. Jésus ne prépare pas une place, comme je le pensais quand j'étais petit, en construisant des maisons quelque part. Non, c'est ce que Jésus va vivre dans les jours qui suivent qui sera déterminant. Le lendemain, Jésus va mourir sur une croix en subissant à notre place les conséquences de notre rébellion contre Dieu. 3 jours après, il va ressusciter, remportant ainsi la victoire sur l'une de nos plus grandes craintes, la mort. Et une 50aine de jours plus tard encore, il remontera devant ses disciples, auprès de son Père. Un jour viendra, Jésus l'a promis, où il reviendra nous chercher. Est-ce que vous voyez pourquoi Jésus, qui est la lumière du monde, est venu sur terre. Parce que Jésus était en mission. Et cette mission était liée à notre besoin le plus profond. Ce besoin, ce n'est pas le dernier smartphone. Ce besoin, ce n'est pas une maison confortable. Ce besoin, ce n'est pas un bon compte en banque. C'est même pas une bonne santé. Notre plus grand besoin sur cette terre, c'est de retrouver celui par qui et pour qui nous avons été créés. Notre plus grand besoin, c'est Dieu lui-même. Et la deuxième chose qui transparaît dans ces paroles, c'est cette notion d'inclusivité. Jésus dit, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. » Ne lisez donc pas cela comme plusieurs maisons séparées, mais comme une seule maison, celle de Dieu, avec beaucoup de place à l'intérieur. De la place pour toutes celles et ceux qui suivent Jésus et qui lui font confiance. Donc Jésus nous invite à lui faire confiance. Face à l'incertitude de l'avenir, il nous offre une destination. La question qui suit naturellement, c'est quel est le chemin à suivre pour arriver ? Et c'est exactement la question qui suit et qui est posée par Thomas, un autre disciple de Jésus qui ose dire tout haut ce que très certainement l'ensemble des disciples se disaient tout bas. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin ?» Nous vivons dans un monde qui propose une multitude de chemins possibles, multitude de philosophies, de religions, de spiritualité, d'idéologie, chacune prétendant offrir un chemin. Et devant cette multitude de choix, on peut légitimement se sentir perdu. C'est là que Jésus répond par une des déclarations les plus surprenantes de tout l'évangile. Un autre « je suis » de Jésus. Après « je suis la lumière du monde », Jésus a dit « je suis le chemin ». La vérité et la vie. On ne vient au Père, on ne vient à Dieu qu'en passant par moi. Remarquez la formulation. Pas un chemin parmi d'autres, pas une vérité parmi d'autres. Non, le chemin, la vérité, la vie. C'est une affirmation exclusive. Alors quand on discute un petit peu avec des gens autour de nous, on s'entend dire que les chrétiens sont parfois orgueilleux ou arrogants d'affirmer que Jésus est le seul chemin vers Dieu. Mais on l'a lu ensemble, ce n'est pas nous qui affirmons cela. Nous ne faisons que redire ce que Jésus lui-même a déclaré. Et nous comprenons que c'est quelque chose qui bouscule. Parce que certains affirment que toutes les religions sont vraies. Pourtant, quand on se penche un petit peu sur chacune des religions, on se rend compte qu'elles se contredisent sur des points essentiels. Et un de ces points concerne Jésus. En tant que chrétien, on vient de l'affirmer, nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité physiquement 3 jours plus tard. Et qu'il existe des raisons solides de le penser, même si tout n'est pas démontrable. En tout cas, une chose est sûre, si Jésus n'est pas ressuscité, toute la foi chrétienne s'écroule. Si on regarde par exemple les deux religions les plus importantes avec le christianisme, il s'agit du judaïsme et de l'islam, on voit qu'elles ne sont pas d'accord à propos de Jésus. Pour les juifs, par exemple, Jésus est mort et il est resté mort. Pour les musulmans, Jésus n'est mort qu'en apparence et Dieu l'a transporté directement au ciel. Il n'est donc pas possible que chrétiens, juifs et musulmans aient tous raison sur Jésus en même temps. En fait, au final, il n'y a que deux possibilités. Soit Jésus est ressuscité, soit il ne l'est pas. Soit il a menti, et à ce moment-là, le christianisme est une imposture. Soit Jésus dit la vérité. Et alors, il devient urgent de prendre au sérieux cette parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Remarquez un petit peu plus tôt que si la destination était inclusive, dans le sens où Dieu accueille toutes les personnes qui viennent à lui, le moyen, lui, est exclusif. Personne ne peut renouer une relation avec Dieu sans passer par cette foi en Jésus-Christ, qui nous a ouvert le chemin par sa mort, par sa résurrection et par son ascension. Et le fait qu'il n'y ait qu'un seul chemin n'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est la meilleure des nouvelles, et c'est pourquoi nous en parlons et nous célébrons jour après jour, dimanche après dimanche, Jésus. C'est un magnifique cadeau que Dieu nous fait. En 1912, lors du naufrage du Titanic, il n'y avait qu'un seul moyen d'échapper à la catastrophe. Et ça, c'était une vérité pour tous ceux qui étaient à bord de ce bateau. Ce moyen, c'était de monter à bord d'un canot de sauvetage. Cette nuit-là, quand l'équipage du Titanic invitait les gens à monter dans ces canots, ce n'était ni de l'orgueil, ni de l'arrogance, mais plutôt un acte d'amour. Je termine. Et je vais m'adresser particulièrement à Louane, parce que c'est Louane qui se fait aussi baptiser ce matin. Aujourd'hui, nous avons la joie de célébrer ton baptême, Louane. Dans quelques instants, on va entendre ton témoignage. Tu vas nous raconter comment Jésus s'est révélé à toi et comment tu en es venu à placer ta confiance en lui, quelque part à monter dans sa brouette ou dans son canot. Tu le sais, mais je te le redis. Retrouver cette communion avec Dieu grâce à Jésus est la plus belle chose qui pouvait arriver dans la vie. Plus belle que d'avoir 18 ans. T'as eu 18 ans cette année. Plus belle que de réussir ton bac. Les résultats sont dans quelques jours. Plus belle peut-être que de te marier un jour. Plus belle que de trouver un emploi, plus belle même que la retraite. Mais bon, ça apparemment, c'est pas pour tout de suite. Tu sais aussi que le chemin de ta vie sera parfois semé d'embûches, il sera douloureux, incertain, parfois peut-être souvent troublant. Mais contrairement à mon GPS, tu as trouvé en Jésus-Christ celui qui ne te lâchera jamais. Il sera toujours là, à tes côtés, dans tes joies, comme dans tes difficultés. Et quoi qu'il arrive, parce que Jésus l'a dit, ta place auprès de Dieu est assurée pour toujours, grâce à Jésus lui-même. Je vais prier. Seigneur Jésus, on veut te dire merci. Merci parce que tu nous connais chacun ici présent aujourd'hui, là où nous nous en trouvons sur le chemin de nos vies. Merci parce que tu nous révèles dans ces quelques lignes quelle était ta mission en te faisant homme sur cette terre. Tu venais pour nous permettre d'être réconciliés avec notre Créateur, avec celui qui nous a créés et pour qui nous avons été créés. Merci pour tout ce que tu as accompli. Tu sais combien on ne cherche pas Dieu naturellement. On est plutôt même rebelle à Dieu. On ne veut pas de Dieu dans nos vies. Mais tu es venu offrir ta vie et supporter sur cette croix les conséquences que l'on méritait pour avoir rejeté Dieu. Et tu nous dis que voilà, c'est ceux qui font confiance à Christ, qui reconnaissent qu'ils vivent sans Dieu, qui ne s'intéressent pas à Dieu et qui font ce demi-tour dans leur vie et qui croient que Jésus-Christ a payé cela. Eh bien, tu es réconcilié avec eux par cette œuvre de Jésus-Christ, par ce chemin, par cette vérité, par cette vie. Merci pour ce cadeau que tu nous as fait. Et Seigneur, je te prie ce matin, s'il y en a parmi nous qui n'ont pas encore, sont pas encore montés dans cette brouette, dans ce canot, Seigneur, qu'ils puissent, que tu puisses leur faire comprendre, Seigneur, toute l'importance de retrouver cette relation avec Dieu. Au nom de Jésus. Amen.